un forum qui a pour titre « Jésus est le modèle du prédicateur ». Alors avant de vous présenter, le temps que tout le monde termine d'arriver, un jour, j'étais dans une paroisse et il y a des paroissiens qui me disent « Oh, notre curé, qu'est-ce qu'il prêche longtemps ?» Et à ce moment-là, je leur réponds « Oh, ben vous savez, c'est Jésus qui leur a montré l'exemple, parce que dans l'évangile de Marc, on nous dit qu'il les enseignait longuement. » Et je vois les têtes des paroissiens qui me regardent « D'accord, mais notre curé, ce n'est pas Jésus. » Et j'ai dû leur expliquer qu'il était quand même le signe et le moyen de la présence de Jésus au milieu d'eux. Alors ce matin, nous avons quatre intervenants, Aubry Pierrens, d'accord, qui est conseil en stratégie et management, qui a 23 ans d'expérience dans la pub et le marketing. Il a travaillé 17 ans en agence de publicité avant de devenir conseil auprès des entreprises. À Paris où il réside, il a été associé au lancement successif de divers projets missionnaires, Soirée Espérance à la paroisse de la Trinité, groupe de prière Efata, Paris, Lyon, Londres, des matines de la Trinité, petit déjeuner théophilo organisé dans des brasseries du quartier de l'Opéra et des soirées thé. Ça veut dire quoi ? Thé comme Thérèse. Soirée de prière pour les jeunes co-animée par la Fondation ou avec la Fondation d'Auteuil. Et avec sa grille de lecture de professionnels aguerris en marketing et communication, Jésus était au final un bon communicateur, un bon prédicateur. On va lui demander de répondre à cette question. Vous y allez ? Oui. Ben, après, au fur et à mesure. Puis il y en a qu'on ne présente plus. Hein. Daniel Ange ne le présente plus. Hein. Et puis même Samuel...
Le micro marche ? Oui, ça marche très bien. Merci. Ce qui est merveilleux dans les forums communion évangélisation, c'est qu'on vous briefe sur quelque chose, puis au fur et à mesure que vous avancez, vous vous rendez compte que vous n'avez plus rien à dire. Et moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir plus rien à dire dès vendredi soir, dès que j'ai entendu Mgr Quatennens nous faire son exégèse sur les pèlerins d'Emmaüs et sur la Samaritaine. J'ai trouvé ça extraordinairement puissant. Et en fait, c'était l'angle que j'avais un petit peu essayé à mon niveau. Un angle de sémiologue, vous voyez, de la sémantique, comment, ce que veut dire les mots et comment il faut les interpréter, qu'est-ce qu'on peut y lire. Donc je vais vraiment oublier ça. En revanche, vous avez, je suis sûr, une attente vis-à-vis de moi parce qu'il y a toujours cette espèce de fausse légende du publicitaire. C'est vrai que j'ai travaillé dans des grosses agences de publicité sur des médias divers qui vont de la télévision, le cinéma, la presse, la radio. J'ai eu la chance et que j'ai toujours la chance de travailler avec beaucoup de grosses entreprises, de travailler avec des responsables d'entreprise, on appelle ça toujours les patrons du CAC 40, les grands patrons. Ça m'a toujours fait rigoler parce que plus vous vivez avec eux, plus vous voyez qu'ils ne sont pas très grands en fait. Mais c'est amusant de voir comme il y a une espèce d'aura autour de ce statut du publicitaire, même si elle a été beaucoup ternie ces temps derniers. C'est vrai que naturellement, on a plutôt une tendance à dire « Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ?» Je vais vous dire une chose, c'est que les hommes de communication, les publicitaires, tous ces spécialistes de la communication, sont fascinés par le Christ et le message du Christ. Et cette fascination, elle est celle d'un professionnel, de façon, je dirais, objective, désaffectivée, quel que soit leur état de foi, quelle que soit leur connaissance des choses d'ailleurs, ils jettent un regard un peu étonné. Et je pense que c'est ça le nœud du problème. C'est de vraiment se rendre compte que nous avons oublié, en regardant le Christ et en nous appuyant sur la tradition de l'Église, que nous avions déjà énormément de clés pour faire passer le message de l'évangélisation. Alors qu'est-ce qui fascine les hommes de com' ? Et vous verrez que si vous prenez des notes, vous verrez que c'est souvent l'inverse de ce que nous faisons. Ce qui fascine les hommes de com', d'abord, ils vont d'abord regarder les résultats. C'est des gens orientés résultats, il y a toute une idéologie du résultat. Il faut que ça crache. Quand j'investis un euro, qu'est-ce que ça me rapporte au bout de la ligne ? Il y a donc une fascination pour l'effet volume. Et les hommes de communication, de marketing, sont fascinés par le fait qu'il y ait des millions de personnes qui, toutes les semaines, vont à la messe, se retrouvent à la messe. Même si ce nombre va en diminuant, ça reste quand même des foules relativement importantes que toutes les campagnes de communication n'arrivent pas à mobiliser. Et je ne vous parle pas simplement des JMJ, je vous parle simplement de tous les dimanches toutes ces personnes qui vont à la messe. Donc il y a l'effet volume, le numérique, ces foules, toutes ces églises, tous ces signes, toutes ces croix. Ça fascine énormément les hommes de communication. Encore une fois, c'est une analyse désaffectivée de tout. Ce qui aussi fascine, c'est la profondeur des changements obtenus. Nous, quand on fait des campagnes de pub, on peut mettre des années avant même que les consommateurs changent un petit peu leurs habitudes. Dans le christianisme, ce qui est merveilleux, c'est que c'est en général assez soudain. Les changements peuvent être très soudains, assez violents, et ça étonne considérablement les hommes de marketing. Ce qui les étonne aussi, c'est le fait que vous adhériez, que nous adhérions jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, nous adhérions à ce message qui nous est donné. C'est le fait aussi que nous répétons par nos actes ce que nous croyons. C'est autant de choses, je vous assure, qui sont dans les briefs donnés aux agences de publicité. Tout ce que nous faisons, nous les chrétiens, et particulièrement les catholiques, ça fait partie des demandes qui sont faites dans les briefs de communication que j'ai reçus lorsque j'étais dans ce monde-là entièrement. Deuxième chose, ils regardent la forme. Et ils regardent toujours la forme, et une des choses qui les amuse beaucoup, vous le savez, c'est les marques et les logos. Ils sont impressionnés par la puissance du nôtre. Il n'est pas là, mais il est quelque part. Le Christ en croix. Ça, le Christ en croix, vous imaginez la puissance. Les gens de Nike sont obligés de payer... Ah, il est là, pardon. Les gens de Nike sont obligés de payer très cher pour avoir un logo sur les t-shirts. Le Christ en croix, il est porté spontanément, gratuitement et de façon incroyable. Et puis ce logo, on y reviendra, est quelque chose d'absolument scandaleux. Un homme nu, cloué sur une croix. Réfléchissez 3 secondes, nous on est tellement habitués qu'on ne se rend pas compte. Mais vous prenez ça avec ça ailleurs. Un homme nu, cloué sur une croix. Aucun publicitaire n'oserait faire un truc comme ça. On vous mettrait éventuellement une femme nue, mais elle serait pas clouée sur la croix. Ensuite, il y a la puissance des slogans. C'est incroyable la puissance des slogans du christianisme. Rendez à César ce qui est à César. Nul n'est prophète en son pays. Levez-vous, allons. C'est des slogans qu'on rêverait tous d'avoir écrits quand on est publicitaire. Tous. La puissance des slogans. Le fait que le silence, même le silence, parle. Vous savez que dans la radio ou la télévision, on est en bruitage permanent. Nous, on a une chose extraordinaire, c'est que même quand on est dans le silence, ça hurle. Les pierres crieraient si on ne se taisait pas. Mais quand on se tait, elle crie. Et nous-mêmes, nous crions. On a des silences qui parlent. On investit aussi dans un média qui est le plus puissant qui existe. Et c'est celui qui a fait la puissance de l'évangélisation. C'est devenu aujourd'hui très à la mode. Aujourd'hui, il y a même des gens qui réfléchissent là-dessus. Des spécialistes de la communication et du marketing qui réfléchissent là-dessus. Ça s'appelle le buzz. On ne fait plus des grandes campagnes de publicité uniquement avec les grands médias. On veut développer le buzz. On appelle ça le street marketing aussi, et le buzz, et l'Internet bien évidemment participe à ça. Le buzz, c'est ce qui a fait que nous sommes aujourd'hui chrétiens, catholiques, ici, présents, en 2010 à Avignon. Et puis, ils regardent enfin le fond. Vous voyez comme ils se trompent de côté. Hein. Ils vont d'abord les résultats, la forme, et ensuite au fond. Et même le fond les fascine. Ce qui les fascine d'abord, c'est la rupture avec les canons dominants, les canons de la société. Ce qu'ils étudient toute la journée à travers les études marketing, les tests. Qu'est-ce qu'ils étudient? C'est comment on va pouvoir rejoindre les gens là où ils sont. Et en dépit de ça, les chrétiens, l'Église le sait, et elle ne va pas flatter ni l'avoir, ni le pouvoir, ni le savoir, ni le devoir. Elle dit exactement le contraire. Vous imaginez ce que c'est que pour des jeunes de marketing qui vont toujours essayer de savoir comment on va réussir à donner l'impression au type qu'il va avoir plus, qu'il peut plus, qu'il sait plus ou qu'il doit plus, et bien c'est exactement le contraire du message qui est délivré par l'Église et le message du Christ. Et deuxième chose aussi, c'est le fait que l'Église et le Christ particulièrement vont rejoindre les hommes et les femmes dans des aspirations profondes et universelles. L'amour, l'amour. Regardez comme on singe l'amour aujourd'hui dans la communication. Et pourtant, le message que le Christ nous donne, le message que nous donne l'Église, est un message dans lequel l'authenticité de l'amour est extraordinairement puissante. Ils aimeraient singer, ils aimeraient faire pareil, mais ils n'y arrivent pas. Donc, moi, ce que je voudrais vous faire passer comme message aujourd'hui, en tant que spécialiste de la communication, puisque c'est comme ça qu'on m'a positionné, c'est de fait qu'il ne faut pas s'étonner si aujourd'hui la communication, qui nous fascine peut-être aussi, encore une fois, comme témoin extérieur, n'arrive pas automatiquement à son but. D'abord, il faut savoir qu'elle est faite par souvent des hommes qui ne connaissent pas le Christ. Et je pense qu'il y a un vrai terrain d'évangélisation dans le monde des médias et dans le monde de la communication. C'est un apostolat particulier que ceux qui veulent y entrer, y entrent, parce que vraiment, il y a des choses à faire. Et je peux vous dire, en ayant été pendant plus de 20 ans dans la publicité, je n'ai jamais rencontré de gens m'ayant parlé de Jésus dans la publicité. Il faut être très clair. Deuxième chose, ils ne le veulent pas. Pourquoi ? Parce que, en fait, souvent, bah, vous savez, la phrase du Christ est aussi très emblématique là-dessus. Là où est ton trésor, là où est ton cœur. Leur trésor, c'est malheureusement, effectivement, gagner de plus en plus d'argent. Et puis, si possible, même le posséder, avoir un pouvoir sur lui. Donc, c'est vrai que pour eux, c'est beaucoup plus difficile. Ce qui m'inquiète plus, ce n'est pas tellement eux. Ce n'est pas tellement les hommes de marketing et de communication qui m'inquiètent. Ce qui m'inquiète, c'est nous. C'est nous, les chrétiens. Nous, les catholiques engagés dans la mission. Parce que souvent, nous sommes très déstabilisés, effectivement, par les secousses qui affectent l'Église. On le voit en ce moment. On peut être aussi fasciné par toutes ces techniques du marketing, toutes les techniques de la communication. Et en fait, on oublie tout simplement de se brancher sur Jésus et se brancher sur la tradition de l'Église. Donc, je voudrais partager, pour terminer, deux ou trois convictions que je crois que nous pouvons apprendre de Jésus et de la tradition de l'Église, et deux ou trois convictions qui me tiennent à cœur. Le premier principe, elle tient dans cette phrase. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Le Verbe s'est fait chair. La parole s'est incarnée. Et la première chose, à mon avis, qu'il ne faut jamais oublier lorsque nous réfléchissons à comment communiquer, c'est la puissance de la parole de Dieu. Pas notre parole à nous, la parole de Dieu. Plus j'ai progressé dans la foi, plus j'ai arrêté de mettre des mots autour. Plus j'ai utilisé la parole de Dieu comme elle est. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, qui continue encore une fois cette mission de conseil en stratégie de management auprès d'un certain nombre de dirigeants d'entreprise, de top managers dans des grosses boîtes, vous ne pouvez pas imaginer. Moi, mon livre de management et de stratégie, c'est la Bible. Je vous assure que c'est la Bible. Tout est dedans. Dans tout d'ailleurs, pour toute chose. Tout est dedans. C'est absolument incroyable de voir comme la parole de Dieu, sans artifice, sans cette présence, sans cette manipulation ou cet enrobage que l'on pourrait faire nos pauvres mots, est extraordinairement puissante. Regardez un exemple tout simple. Regardez lorsqu'on a une soirée de prière, comme on se précipite avec gourmandise sur les pains de vie. Regardez notre gourmandise d'aller lire le petit pain de vie que nous tirons au hasard, entre guillemets, dans la corbeille. C'est d'une puissance absolument incroyable. Beaucoup de publicitaires auraient aimé utiliser cette méthode-là, je peux vous dire. Et ça, c'est vrai en toutes circonstances, la puissance de cette parole. Donc le Verbe s'est fait chair. Donc premier point très important, l'incarnation. Je dis ça parce que je réagis. Je vais vous dire, initialement, j'avais prévu de vous dire plein d'autres choses. Et puis, au fur et à mesure que les jours avançaient, j'ai changé mon truc. L'incarnation. Je crois beaucoup, moi, dans le principe d'incarnation. Et nous sommes la religion de l'incarnation par excellence. On le disait tout à l'heure en contemplant la croix avec le Christ crucifié. Ça me semble très important pour que notre communication soit réussie, d'investir pleinement tout ce qui est la chair, tout ce qui est le concret, tout ce qui est le tangible, tout ce qui est le corps, et non pas l'image. L'image a été envahie par d'autres forces que celles du Seigneur. Il faut être très clair là-dessus. Et alors, je ne sais pas si c'est absolument correct ce que je vais vous dire, mais j'étais très frappé dans Apocalypse 13, chapitre 15 et suivant, par cette bête, la deuxième bête, qui fait adorer la bête, et mieux, l'image de la bête. L'image de la bête. Et le drame d'aujourd'hui pour nous tous, pour nos âmes, et pour ceux de nos compatriotes, c'est l'écran. L'écran. Nos vies, je dirais une sorte de, je ne sais pas s'il y a un complot, je ne pense pas qu'il y a un complot, mais on voit bien la prégnance des écrans. Vous ne pouvez pas aller dans une brasserie, vous ne pouvez pas aller, on vous vend des téléphones avec des écrans qui vont pouvoir recevoir des films en continu. Le gouvernement de notre pays a décidé qu'on allait équiper en très haut débit l'ensemble du territoire. Pourquoi faire ? Pour mettre des gens devant des écrans. Mais des écrans, c'est rien, c'est du plastique, du verre, de l'électricité et une animation qui vous feront de plus en plus faire passer des images qui n'ont juste aucun intérêt. Méfions-nous de tous les pièges du virtuel et méfions-nous de se dire il faut que nous y soyons simplement pour y être ou nous devons utiliser tout cela parce qu'il y a quelque chose d'essentiellement pervers dans l'histoire, l'écran. Moi, je suis très fasciné de voir comme quoi quand on regarde Jésus, il faut regarder toujours Jésus, Jésus passe du temps à guérir les malades, à s'occuper des bobos des gens déjà. Bien sûr, il les enseigne, mais il s'occupe aussi des malades, donc il s'occupe des corps, il s'occupe des gens, de les rencontrer. L'échange du regard, je ne vais pas revenir là-dessus, mais l'échange du regard, la parole, qui m'a touché ? Vous voyez, qui m'a touché dans la foule ? On est vraiment dans cette incarnation, et si nous voulons que notre communication soit puissante, il est essentiel qu'elle soit incarnée. Jésus se donne à voir, se donne à toucher, se donne à manger. Il en est de même pour nous. Laissons-nous voir, manger, toucher. Alors je sais que ça peut être inquiétant dans le contexte actuel de vous dire ça. Mais honnêtement, débarrasser de cette ineptie ou de cette interprétation qui est mauvaise et restrictive, c'est magnifique. La poignée de main, le baiser, le regard, C'est ça qui fait naître les gens, qui fait naître les gens à une autre vie. Je pense qu'il faut vraiment être dans la vie des gens et les rejoindre là où ils sont effectivement. Se reconnaître aussi fragiles, mortels et pécheurs, nous-mêmes. Et être vraiment présent auprès de ces personnes. Et de préférer toujours la rencontre interpersonnelle. Je dis, c'est pour ça, faites attention à l'utilisation de toute cette séduction comme le marketing et la communication. D'abord parce que vous savez que tout le marketing et la communication est quand même le produit d'une certaine idéologie. D'une certaine façon, une certaine représentation du monde. Une certaine façon de se dire, je vais te reprogrammer. Moi, je me bats, par exemple, à titre personnel, c'est très subjectif ce que je vous dis, je me bats beaucoup contre la PNL, la programmation neurolinguistique. C'est un système qui est utilisé pour redonner un peu de dynamisme aux gens, leur permettre d'interagir avec les autres. Mais il y a l'idée de programmation. En quoi, moi, homme, je peux reprogrammer quelqu'un? C'est quelque chose qui est effroyable. Or, on voit bien qu'aujourd'hui, dans la communication et le marketing, on essaye de nous programmer. Et je pense qu'il faut faire très attention de se dire, on va utiliser toutes ces techniques parce qu'elles sont bonnes. Non, elles ont quelque chose d'intrinsèquement pervers. De la même façon, je pense qu'on dit toujours les évangéliques, regardons les évangéliques, ils font des tas de choses magnifiques, mais les évangéliques, ils sont aussi le produit d'une forme d'idéologie, d'une représentation du monde. Et je vais vous dire une chose, je crois que les évangéliques ont pompé tout ce que le meilleur de l'Église catholique. Nous, on avait effectivement, dans cette puissance même de l'incarnation, regardez nos messes, nos liturgies, le fait que nous vénérons la Vierge, qui est quand même le corps qui a donné naissance au Christ. On est vraiment dedans. Et regardez comme ces personnes, sans avoir le rôle de la Vierge, mais on voit bien qu'ils ont vraiment réutilisé le meilleur de ce que nous savions faire dans nos liturgies, dans notre façon de rentrer en contact les uns avec les autres. Et on l'a un peu oublié. Donc attention de ne pas nous faire avoir par cette désincarnation ou virtualisation des actions. Et dernier point, et je vais terminer par là, c'est que nous sommes les fils et les filles du Créateur. Et nous, on a vraiment dans nos gènes et par notre baptême une puissance de création. Une puissance, d'abord parce qu'on nous permet, le Seigneur nous permet de transmettre la vie, c'est sûr, mais pas simplement la vie biologique. Aussi par le baptême que nous pouvons apporter par notre prédication, par le fait que nous allons évangéliser, la nouvelle vie dans le Christ. Nous sommes des créateurs. Nous sommes appelés à le faire, remplis de l'Esprit Saint. Et je fais un énorme appel à tous pour que nous redevenions aussi créatifs. Soyons créatifs. Nous sommes trop conventionnels dans nos façons de prendre la parole, dans nos façons d'agir, dans nos façons d'imaginer des choses. Nous devons redevenir créatifs dans la beauté de la création, en ne nous contentant pas de singer simplement, ou de faire comme, ou d'essayer de faire des petits arrangements. Reprenons toute la liberté des créateurs. Je voyais tout à l'heure beaucoup d'entre nous qui dansions. Mais on ne danse pas pour faire comme. On danse pas simplement parce que on sait qu'aujourd'hui à la télévision les gens dansent, des trucs comme ça. D'ailleurs, ils dansent plus ou moins bien, comme vous le savez. Ils dansent. Nous dansons parce que nous sommes libres. Nous dansons parce que nous avons envie d'honorer, de glorifier notre Dieu. C'est pas parce que les autres le font. On le fait par liberté, la liberté des enfants de Dieu. Et cette danse doit être belle. Et notre peinture, les peintures religieuses doivent être belles. Nos sculptures doivent être belles. Nos liturgies doivent être belles. Nous devons, à travers cette créativité incarnée, montrer combien notre Dieu est beau. Magnifier la beauté. Et la dernière chose, oui, non, j'ai deux choses. Je pense aussi qu'on doit avoir le devoir d'oser. Tout à l'heure, il y avait une question en disant, comment fait-on pour avoir des radios jeunes ou pour les jeunes, tout comme ça. On demandait ça aux garçons là, de RCF. Il ne faut pas demander, il faut faire. Ne pas demander, faire. Dans l'Église, si vous regardez l'histoire de l'Église, vous verrez que les grandes initiatives ont toujours été faites avant de demander ensuite l'onction de l'évêque. On se lance et après on va voir l'évêque. Mais d'abord, il faut le faire.
Je ferai remarquer qu'habituellement, le pasteur d'un troupeau est derrière et pas devant. Bravo. C'est l'Esprit Saint qui est devant.
Amen. Amen. Et dernier point, je vais terminer par là, oser la confiance, s'abandonner. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'initiatives que je me suis fait retoquer en me disant « Oh là là, ça va assécher les finances de la paroisse. Oh là là, vous allez nous piquer tous nos donateurs à KTO. » J'ai eu le projet de faire une chaîne de télévision. « Oh là là, vous allez piquer tout l'argent à nos principaux mécènes sur KTO. » À l'époque, j'étais jeune converti et je lui dis « Monseigneur, je suis un peu embêté. Je vous dirai pas quel monseigneur, comme ça vous ne saurez pas. » Il y en a beaucoup des monseigneurs en France, vous savez. Et j'ai dit, mais écoutez, moi je suis un jeune converti, c'est en 97 que ça s'est passé. J'ai dit, c'est incroyable, j'ai lu, il y avait deux multiplications des pains. Et juste après, Jésus dit, il y avait les disciples, il dit, comment on va faire là pour nourrir la foule? Et Jésus dit, mais qu'est-ce que j'ai fait hier? Je pense que ça doit marcher pour la télévision aussi, enfin vous voyez, c'est pas dit. Voilà. C'est le même principe, quoi. S'abandonner, ne pas avoir peur. C'est terrible. On a tous dit, oh, Jean-Paul II nous a bouleversés avec son N'ayez pas peur. Bah oui, et pourtant on a tous les jetons. C'est absolument incroyable. Donc j'insiste vraiment là-dessus, la crainte de Dieu n'a rien à voir avec la peur de se lancer. Il faut accepter, je pense que je vais terminer par là, puisque c'est vraiment notre Jésus-Christ en regardant Jésus, le faire jusqu'à la mort. Ne pas avoir peur d'aller jusqu'à la mort. Et la mort n'est pas qu'une mort biologique. Ça peut être une mort sur sa réputation. On peut mourir dans sa réputation. Vous savez, moi j'ai un petit problème, entre guillemets, que j'assume pleinement. Je travaille avec des gens qui ne sont pas tous chrétiens, comme vous l'imaginez, même certains même sont plutôt même hostiles. Et si vous tapez mon nom sur Internet, tout de suite, on voit engagé dans l'évangélisation, engagé dans l'Église. Ça peut, vous, me faire mourir du business. Du business qui s'en va. Et le business qui arrive, c'est en général une association qui dit, vous pouvez pas me faire gratos entre chrétiens. Hein, on cède. Voyez. Voilà, donc vraiment regardons Jésus-Christ. C'est lui qui a vraiment les plans de communication à nous donner. Merci.
Alors maintenant, je vais donner la parole au Père Benoît Cole, qui est membre de l'Institut Notre-Dame de Vie, qui est vicaire épiscopal dans le diocèse et curé d'un secteur interparoissial de 16 paroisses rurales au pied du Mont Ventoux. Et un de ses premiers objectifs a été de réfléchir aux moyens de développer une dynamique d'évangélisation. Comment renforcer le noyau des baptisés pour former des évangélisateurs, des catéchistes, des missionnaires. Après une mission sur son secteur, et là, il faudrait, je ne sais pas s'il nous en parlera, mais Kekako a été important pour le début, et il a initié un certain nombre d'initiatives missionnaires sur son secteur, équipe de porte-à-porte, Cor Alpha, etc., etc., qui doivent sans cesse s'articuler avec la pastorale ordinaire des paroisses. Et puis, dans le cadre d'un cheminement de catéchèse avec des membres de l'Institut Notre-Dame de Vie, il est co-concepteur du catéchisme « Viens et suis-moi », la pédagogie divine, etc., un ensemble qui finit de se mettre en place et qui s'inscrit dans cette dynamique d'évangélisation qu'il vient nous présenter maintenant. Benoît, à toi la parole.
Voilà, donc comme l'a dit Monseigneur, je suis curé d'un tout un ensemble paroissial au pied du Mont Ventoux, des petits villages très jolis. On est bien accueillis, on fait du bon vin. Il y a des paroissiens très sympas, il y en a plusieurs dans la salle. Donc je leur avais dit que je referais une petite page de pub, voilà, c'est fait. Mais en fait, je ne vais pas vraiment vous parler de ce qui se fait directement dans la paroisse, ce serait un autre sujet, puisque ce qu'on m'a demandé, c'est d'abord de parler de la catéchèse. Mais je voudrais quand même partir d'un petit événement qui m'est arrivé quand j'étais installé dans la paroisse en 2000, il y a 10 ans. Donc j'avais commencé à lier un petit peu connaissance avec les enfants du village de Mazan, qui jouaient sur la place de l'église. Et un jour, en rentrant donc d'une autre paroisse, je vois des enfants qui sortent comme une volée de moineaux de l'église, dont certains du village qui me connaissaient. Alors je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, oh, il y a un monsieur, il nous a mis dehors. Et, ah ben oui, d'accord, mais alors peut-être vous avez fait un peu de bruit. Enfin, je dis, ben, venez, on va rentrer dans l'église, je vais vous expliquer. Alors on rentre dans l'église, puis je leur explique, ben, vous voyez, c'est très vieux une église, parce qu'il y a des gens qui prient depuis très longtemps. Vous savez, nos églises, elles sont souvent un peu sombres et un peu décrépit même, hein. Bon, donc c'est pas un lieu très... Bon, et puis alors j'explique ça, que c'est un lieu pour la prière, puis tout d'un coup il y a un petit bonhomme qui me dit, en se tournant vers le crucifix, il me dit, qui c'est ce type? Alors j'étais un petit peu interloqué, et puis là, il y avait un petit musulman, il s'appelait Mohamed, qui lui dit, mais tu sais pas, c'est Jésus. Bon, voilà. Et alors je me suis dit, ben voilà, en fait, c'est ces enfants-là, hein, c'est ces enfants-là que je dois rejoindre. Bien sûr, il y avait, comme dans toutes les paroisses, un petit groupe de catéchisme avec des enfants de tradition chrétienne, mais qui se réduit comme peau de chagrin. Chaque année, on sait bien, les effectifs de catéchèse, ça diminue. Alors, on fait des gros efforts de communication, mais ça ne marche pas tellement. Et alors, je me suis dit, voilà, ben, c'est ces enfants-là aussi qu'il faut rejoindre. Alors, comment faire ? comment mettre en place dans la catéchèse aussi cette première annonce. Voilà, ça a été un peu ma première perspective au niveau de la catéchèse. Alors bien sûr, je n'ai pas commencé à réfléchir sur la catéchèse à partir de cet événement. Il y avait déjà tout un travail que j'avais fait donc avec des catéchistes divers et variés, avec des expériences multiples, en paroisse, en école catholique, et puis même dans d'autres pays du monde, hein, puisqu'on a été amené à travailler avec des équipes diocésaines dans des pays du centre de l'Europe, après la fin, donc la chute du rideau de fer, et puis dans d'autres cultures aussi. Tout ça, ça a été très intéressant. Donc il y avait aussi tout un travail qu'on avait fait sur les textes d'Église, hein. Et alors, comment révéler Jésus à ses enfants? Puisque c'est ça le cœur de la catéchèse. Hein. Vous le savez, le pape Jean-Paul II, dans un texte, on a parlé hier d'Evangelii Nuntiandi, mais pour la catéchèse, il y a un texte aussi qui est très important, qui s'appelle Catechesi Tradendi, hein, qui a fait suite au synode sur la catéchèse, et dans lequel il nous est dit, le but ultime de la catéchèse, c'est de mettre non seulement en contact, mais en communion, en intimité avec Jésus. Donc pas simplement en contact, pas simplement connaître, mais en communion, en intimité, c'est un mot fort, avec Jésus, et par lui, avec la Trinité. Donc vous voyez, le but de la catéchèse, c'est cette intimité avec Jésus. Mais comment faire ? Alors j'ai regardé, sans faire de polémique, mais les bouquins qui étaient à ma disposition de la catéchèse, je me suis dit, mais attends, mais avec ces enfants-là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Comment faire ? Comment faire donc pour articuler première annonce et catéchèse ? Parce que vous en avez tous l'expérience. On peut mettre des tas de talents pédagogiques, tout ce qu'on veut, faire de la catéchèse, mais à des enfants qui ne sont pas évangélisés, ça ne marche pas. C'est de l'eau sur les plumes d'un canard, hein, tant que le cœur n'a pas été atteint. Donc comment évangéliser le cœur? Et donc, il y a eu tout un travail, hein, qu'on a essayé de reprendre à partir donc en recueillant des expériences diverses et puis en essayant d'éclairer aussi cette expérience à la lumière des textes de l'Église. Donc comment arriver à cette évangélisation du cœur? Bien, la première chose, c'est finalement de réveiller le désir de Dieu. Dans le cœur de l'homme, il y a ce désir qui est mis par Dieu lui-même. C'est le catéchisme qui nous dit au numéro 27, le désir de Dieu est inscrit dans le cœur de l'homme, car l'homme est créé pour Dieu. L'homme est créé pour Dieu et il ne trouvera pas le bonheur tant qu'il ne l'aura pas trouvé le Christ. Donc, commencez à travailler sur ce désir. Il y a un texte aussi que je voulais vous citer parce qu'il est tellement beau à chaque fois et me le bouleverse. À chaque fois que je le relis, c'est dans le catéchisme aussi, tout au début de la partie sur la prière. On commente brièvement l'épisode de Jésus, la rencontre avec la Samaritaine. Et voilà ce qu'il nous est dit. Le Christ est le premier à nous chercher. C'est lui qui demande à boire. Jésus a soif. Sa soif, sa demande vient des profondeurs de Dieu qui nous désirent. Voilà, les profondeurs de Dieu, c'est le désir de l'homme, la soif de Dieu. La prière, que nous le sachions ou non, est la rencontre de la soif de Dieu et de la nôtre. Dieu a soif que nous ayons soif de lui. Voilà, alors, en s'appuyant sur ce texte, vous voyez, Dieu a soif que nous ayons soif de lui. Eh bien, comment commencer ? Comment commencer dans cette pédagogie ? Eh bien, c'est d'abord réveiller la soif de Dieu. Voyez, on ne peut pas tout faire en même temps. Hein, on ne peut pas tout dire. Il y a une pédagogie divine et c'est notre modèle. Toujours dans le catéchisme, il nous est dit que cette révélation de Dieu comporte une pédagogie particulière. Il y a une pédagogie particulière à la catéchèse. Et ça, bien souvent, on l'oublie, et je crois que c'est souvent le drame de la catéchèse. On veut utiliser toutes les ressources des sciences de l'éducation, mais elles ne sont qu'au service, il y a une pédagogie propre, et c'est la pédagogie de Dieu. Dieu se communique graduellement à l'homme. Il le prépare par les étapes de la révélation. Dieu se communique graduellement. Alors, on ne va pas inventer une pédagogie meilleure que celle de Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Et cette pédagogie, eh bien évidemment, elle va culminer dans la personne et dans la mission du Verbe incarné, Jésus. Alors, voilà, avec tout ça, maintenant, comment faire pratiquement ? Comment éveiller ce désir dans le cœur des enfants, ce désir qui est mis dans le cœur des enfants par Dieu, et qui est le désir de Dieu. Dieu a soif que nous ayons soif de lui. Eh bien, en ouvrant la Bible, en travaillant, ben finalement, on s'est laissé guider. D'abord, il y a toute la pédagogie de l'écoute. Vous savez, la grande prière d'Israël dans l'Ancien Testament, c'est « Écoute Israël ». Alors en fait, on commence avec les enfants, c'est un peu surprenant, mais avec Ben Sirac, hein, le vieux sage, qui va vraiment nous enseigner. Et qu'est-ce qu'il dit au début ? Il dit « Écoute mon fils, applique ton cœur ». C'est extraordinaire. Et petit à petit, avec Ben Sirac, eh bien, on va découvrir qui est Dieu et qui est l'homme. Donc, apprendre à écouter. Paul nous dira, la foi vient de lui. Les enfants, souvent, ont cette capacité d'écoute qui est enfouie, recouverte par tellement de choses. Donc, refaire surgir, vous voyez, par cette éducation à l'écoute, ce désir de Dieu. Deuxième chose, c'est l'éducation du regard. Apprendre à regarder. Regarder avec le regard de Dieu, avec le regard de Jésus. Et ça aussi, c'est magnifique. Je pense à un épisode qu'on prend souvent quand on fait les formations avec les catéchistes, parce que c'est un texte très court, c'est l'épisode de la pauvre veuve. Vous savez, la pauvre veuve qui met son offrande dans le temple, et puis les pharisiens avant. Hein. Alors, ben, quand on commence à travailler ça avec les catéchistes, tout de suite on part au niveau moral, en disant « il faut partager », on commence à... Mais ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas d'abord ça que nous dit l'Évangile. C'est d'abord une révélation sur Dieu, sur le regard que Dieu porte. Qu'est-ce qu'il nous est dit ? Il nous est dit, Jésus lève les yeux. Il lève les yeux et il regarde et il voit. Et il éduque ses disciples qui sont là à côté, il leur dit, regardez. Regardez ce qui se passe. Essayez de voir profondément. Jésus éduque le regard sur l'acte de cette femme qui a tout donné et qui d'une certaine façon annonce ce que Jésus lui-même va faire juste après. Bon. Je ne veux pas détailler, mais c'est un texte extraordinaire à travailler avec les catéchistes. Donc, apprendre à écouter, apprendre à regarder pour entrer dans l'émerveillement. Et c'est vraiment ça qui se passe. Vous voyez. En regardant Dieu, en regardant Jésus, en regardant l'œuvre de l'Esprit-Saint, eh bien, les enfants vont entrer dans l'émerveillement et dans la louange. Et je trouve que c'est quelque chose qui est très, très beau. Parce qu'en fait, dès le début, les enfants sont introduits dans cette prière de louange. Et finalement, qu'est-ce qu'on fera dans la vie éternelle si ce n'est de louer Dieu éternellement ? Donc la porte d'entrée, finalement, eh bien, c'est déjà une entrée dans la vie éternelle par la louange. L'homme est fait, nous est-il dit par le catéchisme, pour connaître, pour aimer Dieu. Et donc à travers cette éducation du regard, cette éducation de l'écoute, eh bien, il y a toute une première annonce qui va se mettre en place, une évangélisation du cœur. Et les enfants, eh bien, sont conduits à faire eux-mêmes cette expérience de Dieu, de la présence de Dieu, parce que c'est bien à cela qu'on veut les amener à la communion. Et donc, vous voyez, cette pédagogie, en fait, elle conduit à l'acte de foi. C'est une pédagogie qui conduit, une pédagogie, on pourrait dire théologale, hein, qui conduit les enfants à croire, à aimer, à espérer, à vivre des vertus théologales. Mais une pédagogie, vous voyez, nous, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on ouvre un chemin. C'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui agit, c'est pas nous. Le catéchiste, il est simplement quelqu'un qui annonce, quelqu'un qui ouvre un chemin. Le catéchiste, il est appelé vraiment à respecter le cheminement de l'enfant, l'œuvre de l'Esprit-Saint dans le cœur de l'enfant. Évidemment, ce n'est pas nous qui donnons la foi. Ce n'est pas nous qui faisons des chrétiens. C'est l'Esprit-Saint. Et donc, il y a à apprendre, vous voyez, dans cette pédagogie, un grand respect du cheminement de l'enfant, de sa liberté. C'est le jeu entre la grâce et la liberté de l'enfant. Et je peux vous assurer que, particulièrement aujourd'hui, l'Esprit-Saint est à l'œuvre dans le cœur des enfants. Tous ceux qui font de la catéchèse pourraient sans doute donner des témoignages bouleversants. Si j'ai le temps, j'en donnerai quelques-uns. Mais vous savez, dans la plupart de ces enfants, justement, qui sont dans un milieu très loin de l'Église et souvent qui vivent des choses très difficiles, eh bien, c'est vraiment merveilleux de voir comment l'Esprit-Saint travaille le cœur de ses enfants. Et finalement, qu'est-ce qu'il nous est demandé ? Ben, c'est d'abord de faire cet acte de foi dans le travail de l'Esprit-Saint, la présence de l'Esprit-Saint qui les conduit à Jésus. Puis après, ben, il faut un tout petit peu travailler, un tout petit peu de pédagogie, évidemment, pour ouvrir ce chemin et les accompagner. Mais c'est d'abord un acte de foi dans la présence de l'Esprit-Saint. Donc ça, c'était mon premier point. Comment, voyez, dans la catéchèse, vivre hein, cette articulation entre la première annonce, l'évangélisation du cœur et la catéchèse ensuite, qui va déployer ben, tous les domaines importants de la catéchèse, hein, c'est-à-dire marcher à la suite du Christ, hein, la vie morale, l'Église, les sacrements. Bon. Mais le cœur, c'est la rencontre avec Jésus. Deuxième point que je voudrais développer maintenant, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est au cœur de la catéchèse, qui est la source de la catéchèse. Hein. C'est vraiment apprendre aux enfants à lire l'Écriture en Église. Et vous savez, souvent, en catéchèse, quand on voit finalement, parce qu'on ne sait pas trop comment faire, finalement on fait de l'explication de texte. Et les enfants, ça les ennuie. Vous imaginez les enfants quand ils ont eu une journée d'école, qu'on les prend le mardi soir ou le vendredi soir, Monseigneur faisait allusion hier, et qu'on fait encore de l'explication de texte, mais ça les barbe. Et les catéchistes sont désespérés, découragés. Mais il ne s'agit pas de faire de l'explication de texte. La parole de Dieu, c'est une parole vivante. C'est une personne qui nous rejoint. Alors comment les faire entrer dans cette parole vivante ? Eh bien, en fait, et ça c'est... j'ai trouvé dans le texte d'orientation des évêques sur la catéchèse, dans les numéros sur la parole de Dieu, c'est très beau. Hein, c'est vraiment une petite perle, ce texte, c'est ce passage-là particulièrement. Il nous est dit, ben, faut faire une lecture dans l'Esprit-Saint. Ben, qu'est-ce qu'on va faire ? Ben, on va commencer par se mettre en présence de l'Esprit-Saint. Alors, je ne veux pas déployer les moyens pédagogiques, on le fait ça au cours de formation et de session, mais juste, voyez, des petites choses toutes simples. On change de lieu, hein, on accueille les enfants, il y a tout une pédagogie pour accueillir les enfants, les écouter d'abord. Comment voulez-vous qu'ils vous écoutent si vous ne les avez pas d'abord écoutés ? Et ensuite, on va changer de lieu. On va aller dans un lieu qu'on appelle le lieu de la parole. Au début, c'est le lieu de la vie fraternelle et on change de lieu, même si c'est une simple salle où on tourne la salle. Enfin, on trouve quelque chose. On va entrer dans quelque chose de différent, quelque chose qui va nous permettre d'ouvrir notre cœur à cette parole. Et cette parole de Dieu, elle va vraiment être partagée. C'est-à-dire, on ne va pas la lire d'un coup comme ça, puis après essayer de l'expliquer. Surtout avec les plus petits, on va la lire étape par étape. Et puis on s'arrête, on pose des questions, on réfléchit. Et quand il y a quelque chose d'important, on dit, ben, on va laisser l'Esprit-Saint travailler en nous. Et on prend quelques secondes de silence. Et on demande aux enfants, voilà, laissez l'Esprit-Saint travailler en vous. Puis après, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette parole ? Et là, on a des choses merveilleuses. Vraiment, c'est souvent bouleversant ce que vont dire les enfants. Voyez ? Donc une parole de Dieu qui est accueillie, partagée dans l'Esprit-Saint. Et en fait, plus on avance, les enfants qui ont suivi la catéchèse en quatrième année, pratiquement on n'a plus rien à dire. Parce que c'est eux, c'est l'Esprit-Saint qui va les catéchiser. Je vais quand même donner un exemple. J'espère que voilà, je ne vais pas trop prendre de temps. Mais quand on avait, pour la troisième année, les CM1, quand on avait travaillé avec Anne-Marie, donc la personne avec qui je rédige, on s'est dit sur la Pentecôte, c'est pas évident, qu'est-ce qu'on va prendre ? Ça fait déjà 2 ans, on essaie de jamais reprendre les mêmes textes, et on s'est dit, ben, on va essayer de prendre le discours de Pierre. Vous savez ? Mais on s'est dit, mais c'est quand même vraiment difficile. Hein. Pierre, il enfile, vous savez, les citations bibliques, et on se dit, mais ça va être un peu abstrait pour les enfants, et bon. Alors on commence la séance de catéchèse. En plus, on l'avait filmé parce qu'on voulait faire une vidéo, on la commercialisera bientôt, mais donc en fait, c'est assez étonnant. Donc on fait le rappel, on fait mémoire, hein, parce qu'il y a toujours cet aspect de mémoire du texte, hein, où l'Esprit-Saint travaille dans le cœur des enfants et fait que la parole de Dieu devient vivante pour eux. Bon, puis après, on leur demande, bon, on arrive, qu'est-ce que l'Esprit-Saint va souffler à Pierre ? Qu'est-ce que l'Esprit-Saint va dire ? Alors les enfants disent, il va dire que Jésus est le Messie. Il va dire que Jésus est mort et ressuscité, qu'il est élevé à la droite du Père. Et il va dire qu'il va donner l'Esprit-Saint. Alors, on était vraiment scotchés hein, avec Anne-Marie, parce que franchement, surtout que c'est un petit Max qui nous a dit ça. Enfin, au moins 2 réponses. Le petit Max, ça faisait 3 semaines qu'il était là, ou 1 mois seulement.
Ouais. Benoît, tu as entendu la première musique ?
Donc j'arrête mon exemple. Voilà. Donc bon, pour dire, voyez, cette parole, cette lecture de la parole de Dieu, hein, qui est tellement importante, et qui va venir éclairer ma vie. Hein. Qu'est-ce que cette parole de Dieu me dit pour aujourd'hui ? Donc voyez, le choix qu'on a fait, ce n'est pas de partir de la vie, puis après de voir comment on va rejoindre ou raccrocher à la parole de Dieu comme on peut. Non, c'est d'abord Dieu qui me parle et comment il va éclairer ma vie, comment il va me changer, me convertir. Dernier point, donc comme je veux dire un mot avant, c'est que cette, avant le dernier point, c'est que cette parole de Dieu, elle conduit à la prière. C'est vraiment à travers la parole de Dieu que se fait toute cette pédagogie de l'intériorité, de la prière, de l'art de la prière, selon la belle expression de Jean-Paul II dans Novo Millennio. La prière, c'est un art, ça s'apprend. Dernier point, donc, l'aspect missionnaire de la catéchèse. La première chose que je voudrais dire, c'est d'abord les catéchistes qui en sont les premières bénéficiaires. Et le critère, vous savez, de la catéchèse, c'est Augustin qui nous le dit, hein, c'est la joie des catéchistes. Bon, je ne développe pas ça, mais en tout cas, pour nous, c'est vraiment ce qui nous permet, au milieu des difficultés, puis de... c'est de tous les témoignages qu'on peut voir, que ce soit dans les sessions ou qu'on reçoit par internet, c'est la joie des catéchistes, hein, que les catéchistes retrouvent la joie d'annoncer la bonne nouvelle, d'annoncer Jésus. Ben ça, voilà, ça nous console de toutes les difficultés et les turpitudes qu'on peut rencontrer, comme vous pouvez l'imaginer. Les enfants deviennent aussi missionnaires auprès de leurs parents. Là, je pourrais donner des tas d'exemples, mais ça, c'est extraordinaire. Ouais. Alors souvent, on nous dit, vous voyez, il faut que les parents participent. Mais comment faire? Les parents, ils s'en fichent complètement. Enfin, excusez-moi, mais les parents, ils viennent déposer leurs enfants et on essaie de faire des célébrations, des tas de trucs, des trucs. Ils attendent dehors, quoi. Hein, parce que comment faire? Comment on va les toucher? On ne peut pas les forcer à entrer dans l'église. Eh bien, c'est les enfants qui sont missionnaires. Et ça, alors, j'ai plein d'exemples. J'en prends juste un, parce que ça m'avait vraiment touché. C'est un petit garçon donc, qui se préparait à la première communion, il s'appelait Paul. Et donc il était d'une famille, comme malheureusement aujourd'hui ce qu'on appelle famille recomposée, vous savez, mais là elle était vraiment recomposée cette famille, hein. On en avait dans tous les sens, j'ai jamais rien compris comment ça marchait de bon. Et alors il avait dit, donc à son père, sa mère, sa belle-mère, son beau-père, j'en sais rien, enfin, il lui avait dit, en lui disant, qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Il a dit, je veux un seul cadeau, c'est que vous veniez vous confesser. Et ben, je vois arriver... Alors, j'étais un peu mal à l'aise parce que, bon, je veux dire, quand je connaissais la situation familiale, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Alors, évidemment, j'ai accueilli et, bon, voilà, ça a été très sympa. Mais vous voyez, c'était très étonnant. Hein, c'est-à-dire, ah, ils sont tous venus se confesser, hein, le père, la belle-mère, la grand-père, le grand-mère. Enfin, j'ai passé 2 heures au moins, on a eu un beau dialogue avec ces gens. Bon, je n'ai pas pu donner beaucoup d'absolution, mais bon, ça ne fait rien, ils avaient déjà fait la démarche. Voilà, bon, je pourrais continuer de donner beaucoup d'exemples, mais vous voyez, vraiment le cœur des enfants est touché et ils deviennent missionnaires. Et ils deviennent aussi missionnaires auprès de leurs camarades. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'au cours de l'année, on voit arriver des enfants et on les accueille. Et parce que la pédagogie qu'on a essayé de mettre en place, je ne peux pas entrer dans les détails, là je n'ai pas le temps, mais justement elle est aussi pensée pour ça, pour pouvoir accueillir des enfants finalement chaque trimestre et chaque année. C'est-à-dire qu'on n'a pas une progression linéaire, on a une progression qui est comme une progression en spirale, hein, c'est-à-dire qu'on approfondit et on reprend toujours. Voilà, merci.
Voilà, je vous présente rapidement les troisièmes intervenants. Et en même temps, je vous rappelle qu'il y a des papiers qui doivent circuler pour ceux qui souhaitent poser des questions, car le but de tout forum, c'est qu'on puisse avoir un peu de temps à la fin pour le partage des questions. Donc maintenant, on va écouter Samuel et Odile Pruvot de la communauté Aïn Karim. Et Samuel et Odile sont mariés depuis combien de temps? 15 ans. Ils sont membres de la communauté apostolique Ankarim également depuis 15 ans. Ils sont tous deux oblats de monastères bénédictins. Alors attention, c'est un peu étrange, parce que Samuel est oblat de Randol et Odile de Kergonan. Et quand j'ai demandé, c'est bizarre, deux monastères différents, elle m'a répondu, c'est la mer et la montagne. Voilà. Odile travaille comme prof d'histoire, géographie en quartier difficile en banlieue parisienne. Et Samuel, vous avez dû voir son nom, comme rédacteur en chef à Famille Chrétienne. Ils ont une longue expérience d'apostolat et de prédication de rue dans plusieurs coins de la capitale et même à Avignon depuis l'an dernier. Et ils étaient à côté d'un théâtre et le directeur du théâtre, on lui a demandé est-ce que ça vous gêne à ce qu'il y ait des gens comme ça sur des tabourets à faire de l'annonce comme ça, de l'évangélisation. Il a dit oui, ça me gêne, mais c'est le principe du Festival d'Avignon, alors je ne peux pas les en empêcher. Alors, à vous la parole.
Alors oui, ça fait une vingtaine d'années qu'on a contracté le virus de l'évangélisation en rencontrant la communauté Ankarim qui, elle, fait de l'évangélisation depuis 25 ans. Et ça a démarré sur les marches de la basilique de Montmartre. Et puis ça s'est répandu ensuite dans différents quartiers de Paris en fonction des nominations des prêtres de la communauté. Et donc nous-mêmes, on a fait pas mal de quartiers parisiens différents. Et on fait de l'apostolat, de l'évangélisation de rue actuellement, place Stalingrad, dans le 19e. Et un quartier où il n'y a pas, où il y a de grands champs à moissonner. Et avant de laisser Samuel prendre de la hauteur, moi je vais vous décrire concrètement ce qu'on appelle un grand samedi, puisque c'est un samedi par mois, de 14h à 20h. Donc avec comme base évidemment la paroisse, parce qu'effectivement c'est important d'être envoyé par le curé de la paroisse et de pouvoir ensuite renvoyer les gens qu'on rencontre sur la paroisse pour qu'ils puissent continuer leur cheminement. Alors le qui, c'est un grand nombre de personnes, avec d'abord ce qu'on appelle des missionnaires qui s'engagent vraiment pour une année complète d'évangélisation de septembre à juin, avec une retraite missionnaire, avec un engagement où chacun nominativement est appelé pour jeter les filets, pour évangéliser. Et puis tous ceux ensuite qui s'adjoignent chaque samedi d'apostolat, paroissiens, qui viennent d'un peu partout, qui ne sont pas engagés comme missionnaires, mais qui viennent évangéliser avec nous. Alors il y a aussi pour chaque samedi un lien de prière très fort. Voilà, on est oblats bénédictins, alors tous les abbayes ont les dates des apostolats et sont chargés de prier particulièrement ces jours-là pour l'évangélisation. De la même manière, il y a tout un réseau de prières de tous ceux qui sont malades à l'hôpital, en impossibilité de se déplacer, qui forment une grande chaîne de prières pour l'évangélisation. L'évangélisation, elle commence par un lancement, par un petit topo, un temps de formation qui nous est donné par un des prêtres qui nous accompagne. Point de théologie, point de... Alors, on est arrivé dans un quartier, en fait, quand on est arrivé il y a 3 ans, place Stalingrad, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de musulmans, évidemment, mais aussi de juifs. C'est la plus grosse communauté juive Lubavitch de Paris. Énorme, la plus grande salle du royaume des témoins de Jéhovah, une grande salle pour les bouddhistes. Et donc, on était un peu désemparés au milieu de tout ça. Donc, la formation qui nous a été donnée, c'est l'Église et le bouddhisme, l'Église et l'islam, l'Église et les témoins de Jéhovah pour nous aider. Et alors, clin d'œil du Seigneur à chaque fois. La fois où on avait, à chaque fois qu'on avait un temps d'évangélisation, dans la rue, on croisait particulièrement ceux vers lesquels on avait été enseigné. Voilà, petit clin d'œil du Seigneur. Donc, un temps de formation. Ensuite, on se regroupe devant le Saint-Sacrement pour un temps de prière. Et le Saint-Sacrement est exposé tout l'après-midi, c'est-à-dire qu'il y a toujours une présence de prière pendant qu'il y en a qui sont dans la rue. Ce qui permet d'ailleurs à tous ceux qui ne peuvent pas toujours... Alors, la doyenne de notre apostolat a 82 ans. Et cet hiver, il a fait particulièrement froid, donc son cardiologue lui avait interdit de sortir. Alors elle était complètement désespérée, donc elle était quand même sortie, mais c'était pour aller à l'adoration. Voilà, et elle levait les bras comme Moïse pour que l'apostolat, l'évangélisation porte du fruit. Voilà, et c'est la même doyenne, Monique, qui avait prié pendant des années pour que sa paroisse devienne missionnaire. Voilà, et qui au bout d'une prière longue et avait fini par être exaucée. Voilà, il faut savoir qu'on part donc ensuite dans la rue, toute tranche d'âge, tout état de vie, toute tranche d'âge confondu. Alors on part deux par deux, en binôme. On se rend sur la place Stalingrad, près du canal de l'Ourcq, près du métro aérien. Et là, les prédicateurs, Samuel, enfin, montent sur une caisse. On a des panneaux, on a quelques... voilà, et puis on se lance. On commence par prier sur place dans la rue. Et puis le prédicateur commence sa prédication. Ce fait qu'à Paris, les gens, toujours un peu curieux, viennent s'attrouper, viennent voir ce qui se passe. Et donc, tous les missionnaires, on est autour pour essayer d'avoir un contact avec les gens, essayer de leur parler de Jésus. Alors, on a évidemment, on a comme nous, dans nos petits sacs orange hier, on a des évangiles, on a des médailles, on a des petites images, mais on a surtout, et c'est extraordinaire, des petites paroles de Dieu sur un petit papier, des paroles des psaumes ou du Nouveau Testament, des paroles même de Jésus. Et on aborde généralement les gens en leur disant, voilà, aujourd'hui Dieu vous parle, Dieu a un message pour vous, et on les fait choisir la petite parole au hasard. Et c'est impressionnant de voir comme à chaque fois la parole de Dieu tombe juste, chacun pioche l'attente qui correspondait. Voilà. Alors, une fois, la dernière fois, je donne une parole de Dieu comme ça à un monsieur en lui disant, voilà, aujourd'hui Dieu vous parle. Il me répond, bah, depuis le temps que j'attendais qu'il me parle, celui-là. Et ça a démarré sur une conversation, voilà, qui a duré. Il y avait vraiment une soif, il y avait vraiment un désir, il ne savait pas trop où aller. Et voilà, donc la parole de Dieu, c'est vraiment l'accroche. Voilà, Dieu a un cadeau pour vous, Dieu vous parle. De même qu'on essaye de vraiment faire un pas concret aux gens dans la foi, parce qu'on se rend compte que passer la difficulté d'aborder les gens, ce qui n'est pas toujours évident, on peut très bien en fait parler de la pluie, du beau temps, de la paroisse, de tout un tas de choses, et puis finalement parler très longtemps sans avoir dit l'essentiel. Donc on est vraiment vigilant à essayer de faire un pas aux personnes qu'on rencontre dans la foi. Et donc vraiment, on est vraiment basé sur l'annonce kérigmatique, hein, Jésus mort et ressuscité par amour pour vous sauver, vraiment dire aux gens que Jésus les aime et qu'aujourd'hui, ils sont invités maintenant à faire un pas. Et c'est généralement surprenant, comme toutes les rencontres qu'on peut avoir dans l'évangélisation. Hein. Et au mois de janvier, comme ça, il y a un monsieur qui s'approche. C'était la fin de l'apostolat, il faisait froid. Je me dis, bon, allez, on a bientôt fini, je vais le laisser regarder tranquille. Je lui dis, bon, faut y aller quand même, j'y vais. Donc je lui dis, vous êtes intéressé? Il me coupe la parole, il me dit, pas du tout. J'ai vu depuis le métro des panneaux, un attroupement, j'ai cru qu'il y avait une manifestation politique, alors je suis venue parce que je m'intéressais à la politique. Mais je vois que c'est pas ça du tout. Alors je lui dis, oui, mais c'est là, en fait, vous n'êtes pas descendu du métro comme ça, il allait à l'autre bout de la banlieue. C'est Dieu qui vous, voilà, qui vous appelle, qui vous fait signe aujourd'hui. Et alors là, il me répond, Dieu, de toute façon, pour moi, c'est trop tard. Vous savez, j'ai fait de la prison, je suis en procès pour violence conjugale, et je vais vous dire d'où je viens. Là, j'arrive de chez une prostituée, donc le bon Dieu, c'est pas pour moi. Et donc, on a discuté, et quand il a compris que Dieu l'aimait, que la miséricorde de Dieu, c'était pour lui aujourd'hui, il a été complètement transformé. Il est resté avec nous, il est venu avec nous à l'adoration après, et il fait tout un cheminement, il est revenu aux deux apostolats suivants. Il est en contact avec les gens de la paroisse et il fait tout un cheminement. Voilà, donc encore une fois, Dieu l'a saisi au moment où voilà, il voulait faire une manifestation politique et il a rencontré Jésus. Alors après les trois heures d'apostolat, on se retrouve devant le Saint-Sacrement pour confier tous les gens qu'on a rencontrés, tous ceux qui ont été hostiles, tous ceux qui ont cheminé, tous ceux qui ont été indifférents, pour tous les confier au Seigneur. Par un petit goûter où on invite aussi les gens qui ont pu nous suivre, et puis pour les missionnaires, par ce qu'on appelle une réunion missionnaire où chacun peut dire aux prêtres qui nous accompagnent toutes les questions, parce que c'est aussi un véritable enjeu de formation, l'évangélisation. On se rend compte qu'à travers les questions que les gens nous posent, il y a plein de choses encore qu'on ne sait pas, qu'on ne sait pas bien, qu'on ne sait pas exprimer, et donc chacun pose ses questions aux prêtres qui fait la synthèse. Qui reprend les différents points de théologie et qui fait la synthèse pour essayer de nous faire progresser. Voilà. Évidemment, au final, comme ça a été dit hier, hein, l'évangélisateur est le premier évangélisé, puisque si on traîne parfois un peu des pieds pour y aller, moi je dis au bout de 15 ans, je ne suis toujours pas habituée. Quand je vois le samedi se profiler, je trouverais bien un moyen de faire autre chose. Jamais, on n'est jamais prêt non plus, et je pense qu'heureusement, si on était prêt, faire l'expérience que quand on est vraiment, quand on se sent vraiment pas à la hauteur, complètement démuni, pas. Je fais l'expérience de dire, bah, écoute Seigneur, je suis là, je suis ton instrument, débrouille-toi. Et à chaque fois, dans ces cas-là, je n'ai pas eu besoin d'aborder les gens, c'est eux qui sont venus vers moi. Extraordinaire. Donc on est les premiers évangélisés. Et si on a du mal à y aller quand le grand samedi arrive, après, on se dit qu'il faut faire ça tous les jours. Voilà.
Donc Odile, elle est formidable. Bon, d'abord, c'est ma femme. Elle commet jamais d'erreurs, mais parfois des imprécisions, parce qu'elle a dit que je prendrais de la hauteur. Mais moi, j'ai du mal à décoller. Hein. C'est comme les Tupolev. Bon. Très simplement, je voudrais, comme le thème, c'est Jésus, le modèle du prédicateur, vous faire part d'une expérience donc qui a 15 ans d'âge. Pour le vin, c'est pas mal. Enfin, pour les bons vins, ça dépend. Il y en a que ça peut devenir de la piquette. Trois pistes à suivre, qui sont bien sûr pas exclusives, trois pistes à suivre dans l'exercice de la prédication. La prédication, ce n'est pas simplement les messieurs, voire les dames qui montent sur des caisses. C'est quelqu'un qui, au nom de Jésus-Christ et de son baptême, parle à un inconnu dans la rue. Voilà. Parce que c'est vrai que Jésus est le grand, l'unique modèle du prédicateur. Et rappeler cette vérité, Monseigneur, en fait, ça peut handicaper pas mal les candidats et les candidates à la prédication. Pourquoi ? Parce que imiter le Verbe incarné, c'est dur. En fait, c'est pas possible, quoi. Enfin, si on veut être honnête. Mais le Seigneur lui-même nous a dit que c'était non seulement possible de le suivre, mais comme le Seigneur a beaucoup d'humour, il dit en fait, vous allez faire mieux. On se dit, non, Seigneur, bon là, non. Parce que déjà marcher sur les... Ben voilà, Saint-Pierre, il marche sur les eaux sans bouée. Bon, ben il coule, mais après, quand même, il ne coule pas complètement, vous vous souvenez. Et comme le dit un auteur médiéval, moi, je ne suis pas médiéviste, mais Odile est médiéviste, c'est une formule qui, moi, me console beaucoup. Nous sommes, non pas des minus, mais des nains, ça ressemble un petit peu, sur des épaules de géants. Saint-François d'Assise, Saint-Dominique, et surtout, en fait, des nains sur l'épaule d'un géant. Qui a de vraies épaules, qui a ces épaules qui ont porté la croix, c'est forcément le géant, c'est Jésus. Et donc ça, c'est très consolant avant de partir dans la rue et avant de prêcher le nom de Jésus. Une fois qu'on sait qu'on est des nains et qu'on assume eh ben, cette petitesse et qu'on monte sur les épaules de plus grands que soi, eh ben, là, on prend de la hauteur, pour le coup. Là, on prend de la hauteur. Alors, premier point sur la prédication, donc sur cette caisse en bois, d'autres le font sur des poubelles, ou j'en ai même vu sur des réverbères, mais il faut être assez svelte et puis équilibriste. Moi, je ne sais pas faire. Premier point, c'est une prédication à portée de voix. Alors, Ein Carême, ce n'est pas Al-Qaïda, hein, c'est le lieu dans la Bible de la visitation. Hein. Le prédicateur n'a pas d'estrade, comme ici. Il n'y a pas d'évêque généralement, ça peut arriver mais pas souvent. On a juste une vieille caisse en bois et on a comme instrument simplement sa gorge et ses poumons.
Vous m'entendez, Monseigneur ? Non, mais voilà, il n'a pas de micro. Alors, on a plus de micro.
Parce que là, vous ne bougez pas, alors que dans la rue, ça bouge tout le temps. Voilà. Deuxièmement, le prédicateur porte un... Donc pourquoi une prédication à portée de voix et sans micro ? Parce que le prédicateur porte un message qui est destiné au monde entier, vous le savez. Mais si on veut être aussi honnête sur cette petite place de Stalingrad, quand ça marche bien, je ne peux pas raconter de bobards parce qu'en face de moi, j'ai Geneviève, et Geneviève, elle vient fidèlement tous les mois. Donc si je raconte trop de bobards, elle dira « Non, Samuel, là, non, c'est quoi ? Tu exagères. » Et on m'a dit que j'ai des ancêtres du Nord. Moi, je pense que je dois avoir des ancêtres vraiment du Midi, en bas d'Avignon. Il y a une grande disproportion entre ce que nous devons faire. La prédication s'adresse au monde entier, jusqu'à Ouagadougou et New York. Et au maximum, au grand maximum, la voix peut toucher 50 personnes. Bon, quand c'est Avignon, c'est spécial. On peut avoir 100 ou 200 personnes parce qu'ils sont coincés dans une file pour aller au festival IN. Ils ont payé très cher leur billet. Alors, de toute façon, ils sont là, ils restent. Et voilà. Mais donc il y a cette disproportion entre cette annonce qui est faite et puis nos moyens très pauvres. Et ça nous oblige à demander du secours. Ça nous oblige à demander du secours, comme la Grèce, un petit peu, la demande du secours à l'Union européenne, au FMI. Il y a un moment donné où il faut être capable, nous, prédicateurs, de demander du secours à Dieu. Alors, deuxième caractéristique, vous inquiétez pas, il n'y en a pas 36, hein, c'est une prédication improvisée. Alors vous dites, mais vous faites le contraire en ce moment de ce que vous êtes en train de dire. Et justement, aujourd'hui, là, ce n'est pas du tout une prédication. Ce n'est pas un enseignement non plus, c'est, disons que c'est un témoignage. Une prédication, dans l'expérience qui est la nôtre, elle ne peut être qu'improvisée. Pourquoi ? Une caisse en bois, ça ressemble un petit peu à un échafaud, parce qu'une fois qu'on est dessus, il n'y a plus d'échappatoire, on est obligé d'avancer. On n'a pas de texte à lire, on n'a pas de chant. Heureusement pour moi, Odile s'est très bien chanté, moi c'est une catastrophe. Je ferais pleuvoir à chaque fois. Et donc on se sent tout nu.
un petit peu comme dans l'épisode de la Genèse. Vous vous souvenez que la tentation, je le comprends très bien, la tentation de nos parents, Adam et Ève, c'est de se rhabiller parce qu'ils ont honte. Eh bien, il faut faire l'expérience de ne pas se rhabiller et de rester comme ça, nu comme un ver devant nos frères à qui on doit annoncer le Seigneur. Pourquoi improviser ? Lacordaire disait il y a un certain temps, Lacordaire, vous savez qu'il faisait les conférences de carême à Notre-Dame de Paris et beaucoup d'autres choses encore. On lui disait, ça marche bien vos affaires, comment faites-vous ? Ben, je prépare jamais. Non, il faut préparer le prédicateur, mais pas la prédication. C'est à méditer. L'improvisation paraît très dangereuse en disant, oh là là, une carême, vraiment des fous, hein, ils préparent rien, c'est normal, ça marche pas. En fait, c'est une consigne du Seigneur lui-même. Elle n'est pas du tout exclusive, bien sûr. Mais le Seigneur nous dit bien qu'il ne faut pas trop se tourmenter pour savoir ce qu'on va dire. Parce qu'à ce moment-là, on se tourmente pour rien. Et le Seigneur nous promet que l'Esprit de Dieu lui-même nous donnera la bonne parole au bon moment. Et si jamais on a trop préparé quelque chose, on donnera une mauvaise parole au mauvais endroit. On se dira, ça ne marche pas. Ben forcément, ce n'est pas ce qu'on nous demandait. Alors, juste un dernier mot sur cette improvisation. Pourquoi l'improvisation dans une prédication ? Eh bien, parce qu'une prédication suppose de l'enthousiasme. Les Grecs, encore une fois, nous disent l'enthousiasme, c'est être plein de Dieu. Et donc, si on est plein de Dieu, c'est-à-dire que le prédicateur, quand il arrive, il est vide, voire il est même percé. Et donc, il attend d'être rempli de Dieu, comme à la Pentecôte. Donc, si vous avez la peur et la tentation d'être vide, heureux êtes-vous. C'est le béaba de la prédication et de la mission, c'est être vide, voire être comme un tuyau percé. Je termine avec un troisième point de cette prédication. Il y a plusieurs pistes. C'est une prédication, pour employer un gros mot, eschatologique. C'est encore un mot grec, vous allez dire, ces mecs-là, une carême, ils sont très branchés grecs. Non, on aime bien le latin aussi, à preuve, les oblats aiment bien le grégorien. L'eschatologie, c'est considérer la fin des choses, le retour du Christ. En fait, nous annonçons pas d'abord un message, mais d'abord un événement. Le prédicateur sur sa caisse, il annonce le royaume de Dieu. D'ailleurs, les premières prédications dans l'Évangile, c'est bien ça, on annonce... Les apôtres annoncent que le royaume est proche. Donc on annonce un événement et pas une philosophie ou un art de vivre. Ce qui fait que c'est très fort parce que ce n'est pas hier ou demain ou bientôt. Mais madame, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que le Seigneur, en ce moment même, que le Seigneur nous pousse à faire des choses qui nous dépassent. Dernière chose sur cette prédication eschatologique, c'est que vous savez que je suis journaliste et plus un prédicateur s'éloigne de l'annonce du royaume et plus il sombre dans quelque chose de moins légitime et de moins important. Et à ce moment-là, sa prédication risque de devenir de l'information. Vous savez, il y a 2000 ans, il y a quelque chose d'important qui s'est passé. Un homme est mort et puis il est ressuscité. Non, ce n'est pas de l'information, c'est une prédication. Et je terminerai avec cette considération journalistique. La racine du scoop, c'est la bonne nouvelle. Si je vous dis que demain, je vous donne un scoop, c'est un faux scoop, hein, mais je vous donne un scoop, demain, Monseigneur Ray, qui se cache quelque part au fond de la salle, est nommé archevêque de Sao Paulo. Vous direz, oh là, famille chrétienne, ils ont les scoops. Hein. Sao Paulo, c'est loin. Mais en fait, le vrai scoop, c'est le fait que le Seigneur est ressuscité. Est-ce que nous avons tous conscience que cet événement mérite le 13h tout à l'heure à la télévision et même le 20h? C'est l'événement fondamental. Et moi qui suis journaliste, pour moi, la résurrection, c'est vraiment le top du scoop. Voilà.